On arrive ce soir-là devant l'hôtel de ville d'ici les Moulineaux à une heure où normalement les locaux se vident. Sauf que cette fois, il y a autour de l'accueil une sorte d'émulation, des personnes qui vont d'un côté et de l'autre. Et pour cause, dans moins d'une heure, c'est l'architecte Daniel Libeskind qui donnera une conférence sur sa vision de l'architecture. Alors forcément, on peaufine la technique et on fait l'inventaire du matériel. Daniel Libeskind n'est pas un architecte comme les autres. L'Américain est un professionnel à renommée internationale. Il s'est notamment chargé de la construction du musée juif de Berlin avant de s'attaquer à plusieurs projets au Canada, en Suisse, en Belgique, mais surtout, c'est lui qui a réalisé le projet Grand Zéro à New York, la reconstruction du site des Tours Jumelles détruites en 2001. Et malgré l'attente provoquée par son arrivée à ICI, il a accepté de nous parler quelques minutes.
Mr. Libeskind, how are you?
Excellent, thank you so much. So nice to be here.
L'occasion d'abord de faire le point avec lui sur le projet Grand Zéro et de ce qu'il dit de son travail.
Eh bien, ce projet évoque un événement catastrophique pour New York et pour le monde libre, pour les démocraties. Ça nous dit aussi à quel point la mémoire est importante et doit nous servir pour le futur à contrer ce type d'événement atroce. La question, c'est surtout de savoir comment redévelopper la ville en utilisant cette notion de mémoire comme une base. C'est même tout le centre-ville de New York qu'il a fallu refaire. Ce n'est pas seulement que Ground Zero, c'est tout un nouvel environnement, un nouveau voisinage qui a fleuri à New York.
L'homme est plutôt accessible malgré son agenda chargé. Entre deux sourires, on comprend que sa vision de l'architecture se veut un mélange de philosophie et de politique, même s'il tient à souligner le côté concret de sa réalisation new-yorkaise.
Concrètement, vous pouvez le voir à travers l'énergie que j'ai pu mettre à développer les espaces publics. C'est un site de 6 hectares et demi, ce n'est pas énorme, mais il y avait des millions de possibilités de reconstruction entre les programmes exigés pour les bureaux, la culture, les infrastructures, etc. Et donc mon idée, c'était de recréer un espace public mémorable. La moitié du site est justement réservée à cela. Il y a un musée, des activités culturelles, une chaîne d'information, ça faisait partie de mon plan. Ne pas seulement créer des buildings, mais un espace pour la société, un espace social et culturel, en fait, là où les gens pourraient se rencontrer. Derrière le côté symbolique du lieu, c'est un endroit où les gens travaillent, viennent se cultiver, où l'on a dû rénover toute l'infrastructure des transports, les trains, les métros. Mais l'idée, c'est surtout d'amener les gens à vivre ensemble. Vraiment, depuis que j'ai démarré ce projet, des centaines de milliers de personnes sont venues vivre sur et autour du site. Ce n'est donc plus un lieu qui se résume à son passé.
Vous aviez déclaré que l'architecture n'était pas un sujet de mots, pas quelque chose qui pourrait être écrit. Si c'est possible alors de l'expliquer, c'est quoi pour vous l'architecture ?
Architecture is everyday life.
L'architecture, c'est la vie de tous les jours, c'est vraiment l'espace, la lumière, la poésie de notre vie de tous les jours. Ce n'est pas quelque chose de plus, pas quelque chose pour les riches, pas quelque chose de spécial, c'est vraiment quelque chose qui apporte de l'oxygène à la réflexion et à l'esprit humain. Ça doit être quelque chose d'inspirant, qui puisse pousser à la création, même qui nous inspire dans la routine du quotidien, en allant au travail, en rentrant à la maison avec sa famille. Et ça vient d'une architecture qui façonne les espaces, les lumières, les matériaux et bien sûr en façonnant l'environnement écologique d'un espace, ce qui est vraiment important de nos jours. Pour le projet Grand Zéro, par exemple, j'ai rempli beaucoup d'exigences pour faire baisser drastiquement l'empreinte carbone de tous les grands bâtiments, pour créer des immeubles solidaires qui n'utiliseraient pas l'énergie comme les autres bâtiments autour de New York, pour créer un modèle durable, écologique, sain.
Vous êtes classé parmi les architectes déconstructivistes. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça ne veut pas dire grand-chose. C'est un mot qui a été créé par mon ami Jacques Derrida, mais ça a en fait assez peu à voir avec l'architecture et peut-être plus en philosophie ou en littérature critique. L'architecture, ça relève surtout de la construction. C'est comment on construit les choses de manière contemporaine, responsable, mémorable. Quelque chose que l'on bâtit pour l'avenir, pas juste mélanger les matériaux entre eux. La déconstruction, c'est presque un slogan pour décrire l'architecture moderne, mais ça ne décrit pas vraiment grand-chose de ce qu'est l'architecture. C'est toujours une question de construction.
Lorsque l'on jette un œil aux travaux déjà réalisés par Daniel Libeskind, on constate comme une sorte d'aversion pour les bâtisses classiques. Une silhouette d'avion avec des blocs qui s'échappent de la structure pour le musée d'art de Denver, un bâtiment tout en longueur qui serpente pour le musée juif de Berlin. à croire que derrière la symétrie, il y a une idée de briseur de forme.
Non, surtout pas l'idée de briser, c'est un esprit de création. Nous vivons dans un monde contemporain où l'on n'écoute pas uniquement de la musique baroque, médiévale ou les symphonies de Beethoven. Nous avons de la musique moderne, des moyens d'expression modernes, et l'architecture n'est pas différente. L'architecture, c'est un art vivant, pas juste un art du passé, c'est l'art du présent et du futur. Et donc, j'utilise toute la poésie de l'architecture pour créer ce lien dans le temps.
Mais ce lien qui semble nécessaire pour vous, ça installe des limites. L'architecte ne peut pas totalement créer, donc.
Bien sûr, mais ça n'est pas un inconvénient, c'est un avantage d'être connecté au passé. Je n'ai jamais cru que c'était un avantage d'effacer le passé. Rester connecté à la mémoire, aux sentiments, aux émotions, à l'histoire, ça donne une dynamique pour la suite. Je pense d'ailleurs que c'est très vrai pour les villes. Les bonnes villes se sont construites sur un héritage. Elles n'ont jamais cessé de construire, de se développer, en utilisant cela comme un pouvoir pour y arriver. Les villes qui n'ont pas suivi ce schéma sont devenues comme des musées, quelque chose où plus rien ne se passe. Donc oui, je pense que le futur n'est important que parce qu'il est lié au passé.
En 2016, Daniel Libeskind a aussi été choisi pour prendre en main une partie de la rénovation de la ZAC Léon Blum à Issy-les-Moulineaux, un îlot de 20 000 mètres carrés mélangeant un quart de logement avec des commerces, des espaces verts et des espaces pour les plus jeunes.
Oui, c'est quelque chose d'assez difficile, d'assez complexe, de créer un très bel espace de vie pour les gens autour de l'arrivée du nouveau métro. Il faut réussir à créer des logements, ce qui est peut-être la chose la plus iconique au monde, puisqu'il ne s'agit pas juste d'un musée ou d'un bâtiment réputé. C'est tout un cadre de vie quotidienne qu'il faut réussir à mettre en place pour des personnes seules comme pour les familles. Et donc, mon projet ici se veut très urbain, un projet du 21e siècle, avec l'idée de créer une vie en communauté et pas seulement une succession d'appartements. Il faut réussir à amener les gens vers un espace très agréable à vivre, durable, quelque chose qui doit créer la vibration urbaine.
Et entre les maisons, les bureaux, les commerces, c'est presque une petite ville à l'intérieur de la ville.
Exactement, c'est le microcosme d'une ville. Lorsque vous avez autant de gens à vivre ensemble, vous devez répondre à toutes les envies, créer des espaces avec de belles vues, avec un profond sens de responsabilité environnementale, quelque chose de beau, de confortable, de sûr. Tous ces éléments urbains, ces rues qui ne sont pas mortes la nuit, des rues pleines de vie, un mélange de programmes pour que les gens puissent à la fois vivre et travailler, ça a toujours été le but de l'architecture. Créer de bonnes conditions de vie.
La question qui se pose désormais, c'est comment créer ces bonnes conditions de vie au vu des évolutions des demandes de la société. Cette ville de demain, en fait, elle ressemble à quoi ?
Pour moi, elle ne ressemble pas à celle décrite par Le Corbusier, qui voulait démonter les grands immeubles, tout façonner sur une table rase et créer des boîtes par-dessus. La ville de demain est plus complexe, c'est comme le cerveau humain. Le cerveau humain, ce n'est pas juste un organe, c'est quelque chose de plus complexe, avec des sillons de mémoire, des connexions qui s'organisent tout autour et à l'intérieur. C'est ça la ville de demain, c'est une chose complexe, un mélange de beauté, de connexions organiques avec ses fonctions, mais aussi rempli de poésie qui ouvre toutes les portes aux nouvelles générations, quelque chose qui permet aux enfants de jouer au ballon au milieu des blocs et qui leur donne toutes les possibilités à portée de main. Les services sont importants, bien sûr, mais les humains ne sont pas seulement des utilisateurs, des ordinateurs ou des robots. Ils ont de l'imagination, de la créativité, c'est ça mon but. Dans mes immeubles, dans mes espaces, de provoquer la créativité humaine. Au final, je ne réalise que la moitié de ces espaces. Le reste, ça vient des personnes qui vivent dans ces espaces. Ils sont les co-créateurs d'une bonne ville, j'y crois vraiment.
Et justement, comment les architectes doivent-ils évoluer, s'adapter pour réussir à créer le type de ville que vous décrivez ?
Je pense qu'on en sait plus désormais. Il y a une sorte de renaissance. Les gens ont déjà plus d'accès à la connaissance. Je pense aussi qu'on ne peut avoir de bonne architecture que dans de bonnes démocraties, puisque tout le monde doit être intégré au processus. On doit ouvrir les portes à toutes les différences. Ça nous permettra de parvenir à un consensus. C'était vrai, par exemple, avec le projet Ground Zero, il y avait beaucoup de parties prenantes, beaucoup d'idées, beaucoup de ressentis différents sur ce qu'il fallait faire, sur ce qu'il fallait construire, s'il fallait construire de grandes structures, de plus petites, des méga-structures. Mon projet est de toute façon basé sur l'idée de connecter les gens en démocratie. Derrière ces travaux, il y a un travail à tous les niveaux, et c'est ça une ville pour moi. Ce ne sont pas que des murs, ce sont des citoyens.
En définitive, on peut souligner cet aspect de la vision de Daniel Libeskind. Avant de parler structure, fonctionnalité, visuel, avant de créer cette ville, il faut d'abord la penser ensemble. La ville de demain ne se fera donc que sur les bases de la démocratie.